Le livre de Josué au chapitre 3, nous lirons tout ce chapitre, c'est une histoire, c'est une lecture simple puisque c'est un récit historique. C'est le passage du Jourdain, Josué chapitre 3. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël et ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous !» Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Alors ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, 1 homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, alors les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer Salée, fut complètement coupée. » Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. Le titre de ce message aujourd'hui est « Franchir le Jourdain ». Lorsque nous retrouvons Israël à cet instant, il vient de passer 40 ans hors du monde. En effet, toute une génération a vécu, grandi dans le désert. Et franchir le Jourdain était en quelque sorte pour Israël revenir dans le monde. Ce qui est parfois mal perçu, c'est de voir comment ce franchissement du Jourdain a totalement bouleversé la culture du peuple d'Israël. Il ne s'agit pas ici de dire qu'en passant le Jourdain, Israël a adopté la culture des Cananéites. Mais ce qui est clair, c'est que dans le pays de Canaan, Israël ne pouvait pas y vivre comme il avait vécu dans le désert. Je crois que l'accomplissement de la mission de l'Église dans notre génération passe par sa présence dans le monde, comme Jésus l'a dit. Mais je voudrais rajouter ceci en respectant tout à fait la parole du Seigneur. En vivant dans son monde, dans sa génération. Mon propos ce matin, cet après-midi, de vous montrer que chaque génération de l'Église doit franchir son Jourdain. Chaque génération doit franchir son Jourdain pour aller chercher son héritage dans sa génération. Et ce sera le propos de ce message aujourd'hui. Alors tout d'abord, quelques considérations pour constater ensemble que franchir le Jourdain, ce n'est pas franchir la mer Rouge. C'est vrai que par certains aspects, cela pourrait se ressembler. En effet, il y a là une barrière d'eau qui marque une frontière entre deux mondes complètement différents. La mer Rouge marquait la frontière entre l'Égypte et le désert, et le Jourdain entre le désert et Canaan. C'est vrai que dans les deux cas, nous avons le même Dieu qui opère un prodige assez semblable, puisque dans les deux cas, il y a l'arrêt de l'écoulement des eaux qui va permettre au peuple de franchir à sec ces deux fleuves ou cette mer. Nous avons aussi le même peuple, à peu près le même peuple, puisque à une génération près, ils sont au même nombre. Ils étaient 600 000 hommes à avoir quitté l'Égypte. Ils sont toujours 600 000 hommes à être prêts à rentrer dans le pays de Canaan. Mais maintenant, il y a de grandes différences entre franchir la mer Rouge et franchir le Jourdain. Tout d'abord, une différence de taille. Le Jourdain, ce n'est pas la mer Rouge. C'est sûr que si vous regardez encore plus au Jourdain d'aujourd'hui, vous vous dites, c'est pas grand-chose à franchir parce que malheureusement, ce fleuve devient de plus en plus presque un torrent, un ruisseau qui s'écoule malheureusement. Mais même à l'époque, le Jourdain n'était quand même pas la mer Rouge. Et puis ensuite, il y a aussi une question d'environnement. Lorsque le peuple est passé par la mer Rouge, nous savons qu'il était pressé de toutes parts. L'armée de Pharaon était à ses trousses. Et lui était prisonnier presque du désert et de cette mer. Il était acculé, il était sans force, sans organisation, sans possibilité de réponse. Tandis que lorsque nous retrouvons le peuple prêt à franchir le Jourdain, nous avons là une situation complètement différente. Nous avons un peuple qui est victorieux de toutes parts. Il a vaincu tous ses ennemis, Og, Sion, Balak, tous les peuples ennemis ont été soumis et il a conquis tous les pays qui sont sur la rive orientale du Jourdain. Nous n'avons donc pas du tout la même situation. Et puis, nous n'avons pas aussi la même dimension miraculeuse. Ce n'est pas tout à fait le même miracle lorsque nous parlons de la mer Rouge et du Jourdain. Bien sûr, il y a l'arrêt de l'écoulement des eaux, mais rappelez-vous la mer Rouge. Alors je ne sais pas si c'est dans votre mémoire cinématographique, mais peut-être certains ont à l'image Charlton Heston dans le vieux film des 10 commandements, qui est là, étendant ses mains avec son bâton, et on voit alors, on voit le vent, on voit la tempête, et on sait que plus loin il y a l'armée de Pharaon, mais qui est empêchée par la nuée de Dieu d'accéder jusqu'au peuple. La nuée se tient là entre le peuple et l'armée de Pharaon, d'un côté la lumière, de l'autre côté les ténèbres, et le peuple qui regarde cette tempête s'abattre, ce vent violent s'abattre sur la mer Rouge, et le souffle du vent de Dieu qui au fur et à mesure va créer, tailler un chemin comme ça à travers la mer Rouge qui remonte comme deux murs d'eau impressionnants, et le peuple qui passe comme ça à travers cette mer. Mais quand on parle du Jourdain, qu'est-ce que nous apprend le texte? Que bien sûr, il y a eu un miracle. Mais il n'y avait pas cette dimension dramatique, puisqu'ils ont simplement vu les eaux s'arrêter de s'écouler, mais le miracle s'est produit plus d'une trentaine de kilomètres plus haut, près de la ville d'Adam. Ils n'ont rien vu se passer, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi une différence dans le leadership, reconnaissons-le. Oui, Josué n'est pas Moïse. Josué ne pouvait pas venir à la tête du peuple en brandissant un bâton, en le jetant à terre pour qu'il devienne un serpent. Il ne pouvait pas mettre sa main dans son vêtement et la ressortir couvert de lèpre avant de la remettre, vous le savez. Il ne pouvait pas transformer l'eau en sang. Il n'avait pas la lumière divine qui rayonnait sur son visage. Il n'avait pas apporté les tables de la loi au peuple d'Israël. Mais il n'empêche que Josué était un soldat courageux, était un serviteur fidèle, et c'était un homme qui connaissait la présence de Dieu, car Josué était le seul qui était monté sur la montagne avec Moïse. Certes, il n'était pas monté jusqu'en haut, mais il avait accompagné Moïse sur la montagne. Et lorsque Moïse se tenait dans la tente d'assignation pour prier, pour chercher Dieu, il nous est dit que Josué était avec lui. Et alors que même Moïse se retirait, Josué restait dans la présence de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Josué n'était peut-être pas Moïse, mais en tout cas, il était l'homme choisi par Dieu pour cette mission. Josué chapitre 1 verset 2, Dieu dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Amen. Je voudrais aussi vous parler d'une autre différence, une différence qui est liée à l'organisation du peuple. À la sortie d'Égypte, au moment où ils franchissent la mer Rouge, nous avons là un peuple d'esclaves. Ils sortent de décennies, de siècles d'esclavage en Égypte. Ils sont sans culte, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas comment on sert Dieu. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de chef. Voilà le peuple d'esclaves qui sort de l'Égypte. Mais le peuple qui se présente là face au Jourdain, est un peuple qui a été formé par la parole de Dieu. Pendant 40 ans, Moïse leur a administré la parole de Dieu, les a organisés. Quelle est la différence maintenant? Nous avons un peuple qui a un tabernacle, qui a appris à rencontrer Dieu, qui sait célébrer un culte en l'honneur de l'Éternel. Un peuple qui a des serviteurs parmi eux, les Lévites, les sacrificateurs. Un peuple aussi qui a des lois. Un peuple qui a reçu des lois de la part de Dieu, des lois spirituelles, mais des lois aussi d'éthique, des lois familiales, des lois sociales, des lois commerciales, des lois hygiéniques. Et c'est aussi un peuple qui est organisé en armée. Quand la trompette sonnait, alors chaque tribu savait quand elle devait se lever, qui elle devait suivre, qui elle précédait. C'était un peuple organisé. Et ça, c'est le fruit du ministère de la parole. Le ministère de la parole ne rendait pas moins dépendant le peuple d'Israël à l'égard de Dieu, mais avait fait du peuple d'Israël un peuple mature, un peuple capable de s'assumer et de vivre d'après les principes de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je suis convaincu que dans beaucoup d'assemblées, eh bien, il y a une efficacité du ministère de la parole par rapport à une ou deux générations. Au début, on ne savait pas comment servir le Seigneur. Aujourd'hui, nos cultes sont établis. Il y a eu l'enseignement de la parole de Dieu. On a appris à servir le Seigneur. Et je crois même qu'au milieu de nous, nous avons une génération, nous avons des forces nouvelles, des jeunes gens qui sont pleins de foi et qui sont pleins de talent, de capacité. Nous n'avons jamais vu autant de capacités, de talents, à la fois spirituels, humains, techniques, dans nos églises. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est avec cette génération que le Seigneur est prêt à lancer son armée pour conquérir notre nation. Franchir le Jourdain, ce n'est donc pas franchir la mer Rouge. Mais franchir le Jourdain a de grandes implications. Parce que ça va changer complètement notre cadre d'église, notre référentiel, comme on dit, référentiel spirituel. Alors, je vous pose cette question, elle va vous paraître très simpliste, parce que, a priori, la réponse est évidente. Que préférez-vous, Canaan ou le désert? Que préférez-vous, Canaan ou le désert? Alors, laissez-moi un peu vous expliquer la situation. Pendant 40 ans, nous avons un peuple qui a été porté par les ailes du Seigneur. Dans le désert, Israël a été complètement pris en charge par Dieu. Tous les jours, ils avaient la manifestation visible, presque palpable de Dieu à travers la Shekinah. Chaque jour, ils n'avaient qu'à se ramasser, à part le jour du sabbat, ils n'avaient qu'à se baisser, pour ramasser la nourriture. La manne était là, à portée de main. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il y avait comme un rocher spirituel qui les suivait pour les abreuver. Moïse avait frappé le rocher, Moïse avait parlé au rocher et l'eau avait coulé. Et nous savons aussi que Dieu avait vêtu le peuple d'Israël et que ses vêtements, comme ses souliers, malgré la marche dans le désert, ne s'usaient point. C'est pas mal quand même le désert. Mais maintenant je voudrais vous parler de Canaan. Il est dit dans Josué 5, versets 10 à 11, une fois qu'ils ont franchi le Jourdain, qu'ils célébrèrent la Pâque dans les plaines de Jéricho, donc de l'autre côté du Jourdain, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, et la manne cessa. En Canaan, plus de manne. On ne pouvait pas sortir le matin très tôt pour aller la ramasser, ça y est, la nourriture de la journée était faite. En fait, on se rend compte qu'il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus de vêtements qui ne s'usaient point. Mais il fallait travailler. Il fallait labourer la terre. Il fallait cultiver les vignes. Il fallait irriguer les champs. Il fallait développer l'artisanat. Il fallait développer l'industrie. En quelque sorte, il fallait faire tout ce que les Cananéens faisaient, mais à la manière de Dieu. Et puis surtout, la grande différence, c'est qu'il n'y avait plus la nuée. Où est-elle passée? Mais il n'est plus question de la Shekinah. Cette vision permanente de la présence de Dieu avait disparu. Il n'y avait plus que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, le témoignage de l'Alliance de Dieu avec son peuple. Mais la Shekinah n'était plus là. Alors j'entendrai presque certains commencer à dire « Mais ce Josué, Dieu est-il vraiment avec lui ?» Plus de manne, nos vêtements s'usent, et il n'y a même plus la présence de Dieu. On ne voit même plus Dieu, on ne voit même plus la Shekinah. A-t-il vraiment l'onction ? A-t-il vraiment l'approbation de Dieu ? Et nous pouvons presque nous poser cette question. Alors, Canaan est-il une terre de miracles ? Ne vaut-il pas mieux rester dans le désert après tout ? Puisque Dieu s'occupait de tout. N'était-il pas comblé dans le désert ? Matériellement, spirituellement ? À première vue, ça paraît évident. Mais il ne faut pas oublier ceci. C'est que dans le désert, toute une génération a péri. Toute la génération de ceux qui sont sortis de l'Égypte a péri, à part deux d'entre eux, Josué et Caleb. Et il ne faut pas oublier non plus qu'un autre drame était en train de se jouer. C'est que la nouvelle génération, la génération de ceux que Josué et Moïse avaient formés pour entrer dans le pays de Canaan, était en train de périr dans les plaines de Moab. C'est ce que la Bible appelle le crime de Baal Péor. Dans Nombre 25, lorsque les jeunes princes d'Israël ont été séduits par les danses lascives des jeunes filles de Madian qui sont venues les attirer à elles pour les détourner du Seigneur. Une jeunesse sans vision pour son temps et cantonnée dans les limites atteintes par leur père se meurt dans les bras du monde. C'est ce que nous avons aussi aujourd'hui. Si nous ne permettons pas à notre jeunesse, à notre nouvelle génération, de rentrer dans le pays de Canaan, dans son Canaan, ils mourront à l'endroit où nous sommes arrivés. Et puis nous n'allons pas rester dans le désert, parce que tout simplement, ce n'est pas le lieu de notre héritage. L'héritage d'Israël, ce n'était pas le désert. L'héritage d'Israël, c'était Canaan. Mais aller dans le pays de Canaan nous amène à considérer certaines choses, et notamment pour entrer dans le pays de Canaan, il faut enfouir. Enfouir des choses qui sont profondes dans nos cœurs. Lorsque le Seigneur a fait traverser la mer Rouge à Israël, nous savons que c'est l'armée des Égyptiens qui a été enfouie dans l'eau, n'est-ce pas ? Mais lorsque Israël a traversé le Jourdain, le texte dit dans Josué 4:9 que Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain. Il avait demandé de la part du Seigneur à 12 hommes, représentant chacun une tribu d'Israël, de prendre une pierre symbolisant une des tribus d'Israël et de les mettre en plein milieu du Jourdain. Et elles seraient donc noyées, enfouies par les eaux lorsqu'elles reviendraient. Si nous voulons aller dans le pays de notre héritage, dans le pays de Canaan, il y a des choses que nous devons enfouir. Ce n'est pas l'armée ennemie que nous devons enfuir, mais c'est ce qu'il y a dans notre cœur, parce que ces pierres, qui sont chacune un témoignage, un symbole d'une des tribus d'Israël, nous parlent de ce que nous sommes, nous parlent de ce cœur de pierre que nous devons enfouir dans les eaux du Jourdain, si jamais nous voulons atteindre le pays de Canaan. Et pour entrer dans le pays de Canaan, la première des choses que Dieu nous demandera après avoir franchi le Jourdain, c'est une nouvelle circoncision. Nous trouvons cela dans Josué chapitre 5, versets 2 à 9. Et nous apprenons là que toute la jeune génération qui avait grandi dans le désert n'avait pas été circoncise. Et Dieu va demander donc à Josué de se faire des couteaux aiguisés pour circoncire les jeunes gens. Et il lui demande de faire cela dans le pays de Canaan, dans la plaine de Gilgal. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur veut établir une alliance avec la nouvelle génération. Une alliance non pas à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, mais Dieu veut renouveler son alliance avec cette nouvelle génération dans le lieu où il veut les amener. Et ce lieu, c'est le terrain de ce monde dans lequel nous vivons, dans notre génération. C'est là que Dieu veut faire alliance avec vous, qu'il veut faire alliance avec nous, dans cette génération qui nous entoure, dans cette ville de Paris qui nous entoure. C'est là qu'est notre héritage et c'est là qu'il scellera cet héritage avec nous. Non pas ici dans l'église où nous sommes bien, mais dans ce monde. C'est là qu'il nous attend. Et je veux le dire encore, nous devons permettre à la jeune génération de franchir son Jourdain pour aller saisir son héritage, de peur qu'elle ne meure dans les plaines de Moab. J'ai grandi avec trop de jeunes gens qui aujourd'hui ne sont plus dans les églises, parce que leurs églises sont devenues des plaines de Moab. Ce qu'il me semble, c'est qu'il nous est difficile d'évoluer au-delà du cadre dans lequel nous avons été comme circoncis par Dieu. Quand je parle de circoncision, je parle de cette alliance, de ce moment où nous levons pour servir Dieu. Nous nous levons dans un certain contexte. Nos pères qui nous ont précédés se sont levés et ont fait alliance pour s'engager avec Dieu dans un certain contexte. Et le contexte dans lequel ils ont fait alliance a été pour un contexte de bénédiction. C'est un contexte qui concernait leur génération. Mais si nous restons, nous, nouvelle génération, dans ce même endroit, alors cet endroit qui pour eux avait été un Canaan va devenir pour nous comme une plaine de Moab dans laquelle nous allons mourir. Et ces choses sont peut-être difficiles à entendre, mais elles partent du fond du cœur parce que nous soupirons après tous ces jeunes qui n'arrivent plus à s'exprimer dans nos églises. Parce que ce qu'ils ont le désir, c'est d'atteindre leur génération, de pouvoir franchir à leur tour le Jourdain comme leurs pères ont franchi le Jourdain. C'est là que Dieu veut les circoncire, dans le terreau d'une nouvelle génération. On peut dire beaucoup de choses à l'égard d'Israël dans le désert, et c'est vrai que ça n'a pas été un peuple facile à diriger, pauvre Moïse. Il en a subi, hein, vous le savez, des murmures et tout ce que vous voulez, ça n'a pas été facile. Mais ce qu'il faut reconnaître à Israël, c'est que c'est un peuple qui n'a jamais perdu la vision. Ils n'ont jamais oublié l'essentiel, le but Canaan. Malgré 38 ans dans le désert, ils n'ont jamais oublié les raisons pour lesquelles Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Et chaque fois que la nuée se levait et que les trompettes d'argent sonnaient avec éclat, que ce soit pour une journée de marche, que ce soit pour un mois, pour un an, pour aller loin, pour aller près, le peuple répondait présent. Et j'espère que l'Église est encore capable de répondre présente, elle aussi. Nous ne savons pas jusqu'où le Seigneur veut nous conduire. Nous ne savons pas s'il veut nous amener dans un endroit pour y passer un jour, une semaine, un mois, un an, et nous amener encore plus loin. Mais chaque fois que Dieu nous dit « allons plus loin », que nous sentons que l'Esprit de Dieu se met en marche, serons-nous capables, comme le peuple d'Israël, de répondre et de dire « ok, nous démontons le tabernacle, ok, nous, notre façon de célébrer le culte, nos habitudes, nous démontons tout cela et nous allons rebâtir un peu plus loin, dans un contexte différent, parce que chaque fois que l'appel de Dieu retentit, c'est pour nous amener plus près du Jourdain et de Canaan. » Alors vous le comprenez, nous avons donc à franchir notre Jourdain, nous aussi. Je peux parler avec cette expérience. Aujourd'hui, je me situe entre deux générations avec la mémoire de tout ce que mes pères et mes grands-pères m'ont transmis. Je sais ce qu'étaient les choses à leur époque. Je sais ce qu'elles sont aujourd'hui. Et la grande différence qu'il y a entre ce qu'ils ont vécu et ce que nous vivons, c'est qu'ils ont vécu dans une église qui était une église souvent d'une génération. Mais nous vivons dans une église avec 2, 3, 4 générations différentes. Et ça, c'est quelque chose de radicalement différent et nouveau par rapport à ce qu'ils ont connu. Et ce que nous observons, c'est comme je vous l'ai expliqué, ce qui a été pour eux un Canaan à leur époque, devient pour les nouvelles générations une plaine de Moab, un endroit dans lequel ils sont comme en train d'étouffer. Et je le dis, cette nouvelle génération a besoin de rentrer dans son Canaan, dans son héritage. Et alors que nous grandissons dans nos églises, que nous vivons dans nos églises, c'est comme si nous quittions ce monde. Je ne dis pas que nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes même plus dans le monde. Nous sommes comme Israël dans le désert. Et notre culture d'église devient complètement anachronique par rapport au monde qui nous entoure. Lorsque cette église a été fondée il y a 75 ans, Paris n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Ce n'était pas du tout une ville internationale. Il n'y avait que très peu de banlieues. Et aujourd'hui, c'est devenu une mégapole de 11 millions d'habitants, avec je ne sais pas combien de nationalités différentes. Et nous voudrions vivre l'Église, faire le culte comme nous l'avons fait il y a 70 ans, parce que c'est ainsi que nous avons été bénis. Mais en leur génération, ils ont été circoncis à cet endroit-là. Dieu s'est engagé avec eux, ils ont fait alliance dans ce contexte. Mais il y a un nouveau contexte. Et Dieu veut faire une nouvelle alliance avec nous. Chaque génération doit faire face aux défis de sa propre génération et donc savoir de quel côté du Jourdain elle va vivre. Je sais que l'enjeu, les craintes sont liées à la question de la sanctification. C'est la peur. Parce qu'on voit la sanctification comme quelque chose presque des fois de fragile. C'est vrai que nous devons veiller sur nos vies, mais pour moi, la sanctification, la sainteté, c'est une puissance. C'est une puissance. Quand on voit l'Évangile, quand on regarde Jésus, est-ce que Jésus a craint d'être touché par le lépreux ? Est-ce que Jésus a craint d'être touché par la femme atteinte de perte de sang ? Est-ce que Jésus a craint d'être touché par la femme prostituée ? Alors que les pharisiens se disaient, oh, s'il était vraiment ce qu'il prétend être, il ne se laisserait pas toucher par une telle femme. Est-ce que Jésus a craint de manger avec les publicains ? Est-ce qu'il a été contaminé par cela ? C'est lui qui les a sanctifiés. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Et c'est ce que ça veut dire, être dans le monde sans être du monde. Seigneur, je veux être comme circoncis dans ma génération. Circoncis dans ma génération. Alors nous devons veiller à ne pas perdre de vue la vision. Et puis à accepter, c'est parfois difficile, je sais, ce changement de cadre spirituel, de cadre référentiel. Est-ce que nous allons continuer à vivre notre vie chrétienne dans le désert ou en Canaan? Franchir le Jourdain qui nous sépare de notre génération a certes un côté beaucoup moins spectaculaire que celui de la mer Rouge, mais ses conséquences sont énormes, tant par un refus que par une acceptation. C'est tout l'avenir d'une église qui en dépend. Et il y a des églises qui font face à cette échéance. Et ils doivent répondre. Quel choix ferons-nous ? Israël, au temps de Moïse, a refusé d'entrer dans la terre promise par incrédulité, mais au temps de Josué, tout le peuple est passé. Alléluia ! Aujourd'hui, il nous faut déterminer où nous allons vivre notre foi. Et je finis par ce point. C'est au pas des sacrificateurs que Dieu a déclenché le miracle. Nous le voyons, c'est lorsque les sacrificateurs guidés par l'Arche de l'Alliance ont mouillé leurs pieds, il est dit, que le Jourdain s'est arrêté. Dieu cherche au milieu de nous des sacrificateurs qui vont aller vers ce Jourdain conduit par le Saint-Esprit et qui vont dire, Seigneur, je mets mon pied dans l'eau de cette génération pour qu'un miracle s'accomplisse et que tu nous fasses passer de l'autre bord. Serez-vous de cela ? Amen.